Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor.
Ses invités sont donc nombreux, Élodie Fondacci, Philippe Gault, Mathieu Ricard, et nous commençons par la musique classique, forcément on est sur Radio Classique avec François Chaplin, pour son nouveau CD Mozart, avec l'enregistrement des deux concertos, numéro 23 et numéro 24, avec l'orchestre Victor Hugo, dirigé par Jean-François Verdier. Alors on va peut-être écouter d'abord, pour avant de juger, on écoute et on va choisir l'adagio du concerto numéro 23, le plus connu peut-être, de Mozart. Quel génie ce Mozart, hein, parce qu'on a toujours besoin d'écouter et on va le réécouter bien plus longuement, évidemment, après cette émission.
Oui, un génie, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on emploie d'ailleurs ce terme génie un peu trop souvent. Et bon, il y a beaucoup de génies, mais le génie de Mozart est incroyable, quoi, totalement intemporel. Et pourquoi il nous touche en fait autant? Parce que c'est la vie, au fond, c'est la vie. Il met en scène nos vies, en fait, à l'instar de quand on écoute ses opéras. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est et en même temps, il y a cette dimension spirituelle qui se dégage de sa musique. Quoi. C'est et quelque chose d'inexplicable au fond, parce que on essaye d'expliquer beaucoup. Je lisais il y a très très peu de temps là le Je relisais Vladimir Yankelevitch, sur le mystère de le grand philosophe, ouais, et le mystère debussiste, le mystère. Et c'est vrai que il y a cette part de mystère en fait qu'on n'arrive pas à expliquer chez Mozart, parce qu'on et chez les grands compositeurs ou chez les grands peintres. Aujourd'hui, on essaye de tout expliquer, en fait.
Alors, François Chaplin, vous nous disiez, il raconte la vie. On sait que la sienne fut très courte, hein, moins de 40 ans. Il mettait combien de temps, par exemple, pour composer ses concertos?
Ses concertos ont été composés relativement rapidement, en fait. Ils font partie, d'ailleurs, d'un triptyque. Et ils ont été composés assez rapidement. De toute façon, ils composaient d'une manière générale assez rapidement. Et pour moi, c'est vraiment les deux plus beaux. Enfin, oui, je pense les deux plus beaux. Il y en a peut-être encore deux, le 21e, le 20e. Mais c'est tout est là-dedans, en fait. Tout est dans ces concertos. Enfin,
quand on joue, on a forcément en tête des références quand même.
Oui.
Quand vous étiez petit garçon, puis adolescent, et que vous commenciez à apprendre le piano, puis à en faire votre métier. C'était qui vos grands mozartiens, vos grands pianistes mozartiens?
J'en ai plusieurs, mais c'est vrai que je me souviens, c'est un de mes premiers disques d'ailleurs que ma maman m'avait acheté, c'était les concertos par Clara Askill. Le 24e, le 23e, elle l'a jamais enregistré en fait. Le 24e, et j'avais 8 ans et j'ai été totalement émerveillé. C'est vrai que c'est voilà, ça c'était ma première découverte. Et puis bon, voilà, bien sûr, Peraya, c'est, voilà, c'était grand. Grand
alors,
en fait.
Un mot sur l'orchestre, hein, il s'appelle Victor Hugo. Il y a une vraie raison, hein, puisque c'est Victor Hugo, Franche-Comté
voilà, à Besançon, puisque c'est natif. Voilà, exactement, Victor Hugo. Mais c'est juste là le dernier. Mais c'est vrai que c'est une belle rencontre avec Jean-François Verdier, qui est un grand chef, très mozartien, qui a beaucoup dirigé des chanteurs, et ça s'entend parce qu'il est c'est toujours très vocal, la manière dont il dirige. Il y a une grande souplesse, voilà, c'est un très bon orchestre.
Vous êtes déjà sur l'œuvre d'après ou pour l'instant vous allez vous poser et puis surtout jouer?
Oui, là, c'est vrai que je suis un petit peu dans Mozart, mais c'est voilà, le prochain album en fait sera consacré à Brahms, donc c'est pas tout à fait le même langage musical, le même univers, mais c'est un grands compositeurs aussi.
Ben oui, ben vous embrassez les plus grands en tout cas. Donc François Chaplin, Mozart, le concerto numéro 23 pour piano et le numéro 24 avec l'orchestre Victor Hugo, dirigé par Jean-François Verdier. C'est donc chez qui d'ailleurs?
C'est Aparté.
Aparté,
voilà. C'est là où j'ai fait mon disque Schubert aussi.
Exactement. Voilà. Et puis un mot, puisqu'on en est au coup de cœur, dans les classiques jaunes, j'ai retrouvé un formidable texte de Yanina Esqueles, les cahiers de Yanina, très comparables évidemment au texte de d'Anne Frank, puisque cette jeune fille avait 12 ans et elle a tenté de s'évader à l'automne 43 et elle a écrit ses souvenirs à chaud et le texte a été publié par deux résistants dès 46 et là on les retrouve publiés par les classiques Garnier. Et un texte aussi qui m'a ému de Carole Soro qui raconte aux éditions Maya de la Neva à la Seine, l'histoire justement d'une jeune femme qui s'est retrouvée dans un camp de concentration et dont elle a eu connaissance simplement parce qu'elle a acheté un appartement à Boulogne relativement récemment, qu'elle a fait faire des travaux dans son appartement et que là, elle a découvert la présence de cette femme et donc elle a voulu, et elle l'a romancé bien sûr, dans son livre Carole Soro, elle a voulu raconter ce destin et un autre destin, celui de Victoria, issue de l'aristocratie russe en 1917. Dans un instant, Mathieu Ricard.
Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique.
Avec nous maintenant, Mathieu Ricard. Bonjour.
Bonjour Patrick.
Un moine dans les nuages de l'Himalaya, que vous nous racontez dans un beau livre cette fois. Alors c'est un livre de réflexion, bien sûr, mais c'est aussi un livre de contemplation. Et ça, ça vous va bien.
De photographie, parce que être témoin pendant un demi-siècle de la beauté des messes spirituelles, de la magie des paysages, ça se partage.
50 ans d'Himalaya, mais vous aviez quel âge? Vous aviez 2 ans et demi.
La première fois, vous êtes flatteur. J'avais juste passé 20 ans, ai 60, bientôt 72.
Wow.
La méditation conserve.
Bah oui, parce que vous avez une tête très épanouie.
1967-2017, ça fait un demi-siècle, cher ami.
Un demi-siècle où vous avez rencontré les plus grands maîtres spirituels, à commencer bien sûr par le Dalai Lama, oui, qui était là même avant vous, hein, parce qu'il est là
depuis
plus longtemps encore.
Depuis pas mal de temps. Mm-hmm. Et je l'ai rencontré assez tard, parce que mon deuxième maître, Kensei Rinpoche, qui était aussi un des maîtres du Dalai Lama. Donc j'étais dans l'intimité du Dalai Lama quand il recevait des enseignements, j'ai pu photographier ça, et j'ai jamais vu d'autres images du Dalai Lama en train de recevoir lui-même des enseignements.
Mais alors lui, on le voit souvent à Dharamsala, donc c'est-à-dire au nord de l'Inde, mais ça fait plus d'un demi-siècle justement qu'il n'a plus le droit de revenir chez lui. Ça doit lui manquer 60 ans.
Ben oui, ça lui manque. Surtout, il s'inquiète pour le sort des Tibétains. Lui, il est bien partout, on pourrait dire. Heureusement, après 60 ans de méditation sur la bienveillance, l'amour, la compassion et la nature de l'esprit, heureusement qu'il se sent bien partout. Mais il songe, bien sûr, au sort du peuple tibétain, au sort de l'environnement au Tibet.
Et vous-même, vous avez eu le droit d'aller au Tibet, de
photographier le Tibet? Alors moi, j'y suis allé 23 fois.
Côté.
Et je débrouille. Non seulement ça, mais j'ai réussi avec des amis à faire mener à bien 80 projets humanitaires, des écoles, des dispensaires, dans l'ensemble de l'Est du Tibet. Aujourd'hui, entre le Tibet, le Népal, l'Himalaya et puis le nord de l'Inde, nous aidons 300 000 personnes par an dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux grâce à Karuna Sechen, l'organisation que j'ai fondée, à laquelle sont dédiés les retours de ce livre, comme bien d'autres.
Et donc j'espère qu'ils seront très très positifs, ces retours.
Tout à fait.
Parce que,
pour la bonne cause.
Oui, et c'est un très beau livre, vraiment, qu'on feuillette d'abord, et puis après on le lit, mais on le feuillette d'abord parce que les photos vous prennent à la gorge. Elles sont toutes de vous.
Alors c'est une question qu'on me demande souvent. Là, comme il y a certaines photos historiques, sur 380 photos, à part une vingtaine, oui, effectivement.
De vous.
Ça fait 50 ans de photographie. Et c'est mon 10e livre de photographie, et je photographie depuis l'âge de 12 ans. Donc c'est en fait presque mon vrai métier, où j'ai appris, j'ai l'expérience. L'écriture, c'est venu un peu comme ça. Mais la photographie, je l'ai mûrie sur 50 ans.
D'ailleurs, si on veut mieux vous découvrir comme photographe, on peut vous découvrir aussi bien à la librairie La Une, à Saint-Germain-des-Prés, en ce moment. Exposition de vos photos, mais aussi à Monaco.
100 photos, c'est superbe de voir 100 photos exposées sur les murs.
Oui. Et alors donc, à choisir entre les paysages et les êtres, parce que les êtres sont quand même très doux là-bas aussi, dans ces montagnes qui sont pourtant très rudes.
Alors c'est incroyable, parce que les Tibétains, en dépit de toutes les difficultés qu'ils ont eues, des tragédies, ils ont une espèce de bon enfant, des regards lumineux, et puis ils changent pas quand vous les prenez en photo, ils posent pas, jamais. Vous avez un enfant qui vous croit droit dans les yeux avec un regard transparent. Et ça, pour quelqu'un qui fait des portraits, c'est formidable parce qu'ils font pas la mine, ils changent pas d'attitude. Et puis, alors, les paysages, alors, vous avez des lumières absolument fabuleuses. Moi, de mon ermitage du balcon, je découvre 200 kilomètres d'Himalaya tous les matins. Alors, évidemment, de temps en temps, c'est un oiseau qui passe en dessous. De temps en temps, c'est des bancs de brume. De temps en temps, c'est l'Annapurna à 6h du matin qui surgit tout rouge sur une mer de nuages. Enfin bon, c'est des cadeaux permanents.
Vous avez essayé de grimper là-haut? Votre plus haut sommet, plus c'est haut, à combien
c'était de pas mètres? Un sommet, c'est au Mont Kailash, qui est une montagne sacrée dans l'ouest du Tibet. Il y a quand même un col à 6000 mètres.
Et je me suis dit... C'est le Kilimandjaro, quand même, bravo.
Je me suis dit, à la fin, plus haut, c'est pas humain, sauf si on s'entraîne, si on s'acclimate, mais c'est vrai que ça devient dur. Vous faites 3 pas, vous arrêtez.
50 ans d'Himalaya, donc grâce à Mathieu Ricard, grâce à ses photos, grâce aussi à ses textes. Vous nous racontez la toute première fois où vous vous rendez à Darjeeling.
Rencontrer mon maître, celui qui est devenu mon maître après ça.
Et puis, finalement, c'est l'itinéraire d'une vie.
Mais oui, voilà. Parce que 2 fois 50 ans, c'est un peu dur, en tout cas en photo.
Non, on va voir, attendez.
Ça ferait 120 ans, bon, ça...
Vous avez cru remarquer que...
Il y a Jeanne Calment, 126 ans.
Vous allez y arriver. En tout cas, vous êtes éternellement jeune dans la tête, grâce certainement au bouddhisme, mais aussi grâce à une forme de philosophie de vie que vous avez.
Peut-être un entraînement de l'esprit.
Oui.
La méditation, ça conserve.
Merci beaucoup, Mathieu Ricard.
C'est moi qui vous remercie, Patrick.
Dans un instant, Élodie Fontaine.